Alors bonsoir à tous, mon nom est Georges Leroux, je suis très heureux de vous voir si nombreux pour cette rencontre autour du livre de notre collègue et ami Éric Méchoulan. Ce livre est en quelque sorte un signe des temps puisqu'il s'intéresse à une des choses qui fait symptôme dans la littérature philosophique et même je dirais dans la littérature tout court, cette question de la mémoire. Alors, nous sommes très, très heureux de pouvoir faire en sorte qu'il vous présente son livre et que son travail soit discuté par deux collègues que je vous présente. Alors, à ma droite, vous reconnaîtrez Joanne Villeneuve du département d'études littéraires de l'UQAM et juste au bout, Dominique Scarfonnet, qui est professeur à la faculté de médecine dans le département de psychiatrie et qui a comme ça des incursions littéraires. C'est pas ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, Dominique?
Département de psycho.
Psycho, d'accord.
Je suis psychiatre.
Oui, c'est ce que...
Je comprends ton erreur.
Oui, bon, écoute, c'est une erreur qui est elle-même un symptôme. Alors, voici comment nous allons faire. Vous savez que ce livre pose une question très sérieuse, qui est le rapport de la mémoire et de la modernité. Modernité littéraire, modernité philosophique aussi, et qu'il s'amorce à compter d'une opposition, on pourrait dire, un peu déstabilisante entre ce culte de la mémoire qui nous constitue et ce qui pourrait être ou devrait être, selon certains, plutôt le projet toujours orienté vers l'avenir de la modernité. Alors, ces questions donnent lieu à des travaux très très substantiels partout. Nous avons fait nous-mêmes ici à Montréal un colloque qui répondait à ces cours sur les politiques du pardon et le devoir de mémoire. Il y a énormément de réflexions. J'ai devant moi Mariella Pandolfi qui certainement va prendre la parole puisque elle a travaillé tant et tant et elle vient de faire paraître un numéro de la revue Anthropologie et Société très important. Donc, la question, c'est de quelle mémoire parle-t-on, de quelle culture parle-t-on? Et pour débuter, je vais inviter Éric Méchoulan à nous présenter son travail, un peu la genèse du livre. Et voilà. Alors, la parole est à toi, Éric.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Je pense qu'en effet, c'est surtout cette question de la mémoire qui a certainement attiré votre attention et vous a fait venir à cette causerie, table ronde, à partir du livre, plus que sur le livre ou pour le livre. Peut-être je voudrais partir, en fait, de l'annonce même qui a été faite, parce que je trouvais ça assez intéressant dans la modalité que ça a pris, puisque la plupart d'entre vous ont dû voir qu'il y avait une phrase qui avait été retenue pour annoncer cette causerie, qui est une phrase qui, sur le moment, m'a un peu surprise, parce que je ne l'ai pas du tout reconnue, ce qui fait que j'ai cherché, évidemment, dans mon propre texte, en interrogeant pour voir d'où elle sortait. Je ne l'ai jamais trouvée. Mais elle était quand même quelque part, elle était sur la quatrième de couverture. Donc il y a quand même une certaine légitimité, manifestement. C'était une phrase qui disait « Le passé n'est pas un problème s'il définit le présent ». Le fait d'isoler cette phrase semble supposer que, d'une part, c'est une opinion personnelle ou un jugement général, alors que, si on le remet dans la quatrième de couverture, c'est une description très ponctuelle d'un certain état de société qui s'oppose justement à un autre état de société. Et je voulais commencer un peu là-dessus parce qu'il me semble important de saisir qu'il y a un enjeu historique, évidemment, que rappelait à l'instant Georges Leroux. Essayer de penser la modernité, c'est aussi essayer de penser la différence de la modernité et de ce qui venait avant. Mettons les sociétés traditionnelles pour donner un tour très très général à cette opposition. Or, par définition, dans les sociétés traditionnelles, ça repose sur les traditions, donc la mémoire collective. Et c'est dans ce sens-là qu'en effet, dans ce type de société, il peut y avoir une définition du présent par le passé. Même il doit y avoir une définition du présent par le passé. Ça ne veut pas dire une détermination, bien sûr. On fait la différence entre les deux. Mais définition, c'est quand même très, très fort. Et il semblerait que la modernité se soit quand même articulée sur un certain rejet de ce type de préjugés ou de prémices et tende beaucoup plus vers l'avenir que vers le passé. D'où un petit peu le titre, ou plutôt le sous-titre légèrement provocateur, pas beaucoup quand même, faut pas exagérer, « Comment se débarrasser du passé ?» dans la mesure où il semblerait que la modernité se soit ordonnée à partir de cette idée générale. Il faudrait se débarrasser du passé. Heureusement, on ne s'en débarrasse jamais. Mais il n'empêche qu'il faut voir un petit peu les modalités à la fois de sa rémanence, ce passé, comment il peut s'articuler à notre présent, voire au futur, mais aussi de saisir quelles sont peut-être quelque part les nécessités de l'oubli. Et c'est là où, en effet, le caractère un peu symptomal, mon collègue de gauche me permet ce type de vocabulaire certainement abusif, mais donc le caractère légèrement symptomal de l'omniprésence de la mémoire aujourd'hui. Qui, au moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était déjà assez présent. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions à la fois dans un lieu et à un moment un peu particulier. Je pense que ce n'est pas inintéressant de le signaler au passage, juste entre nous. Je me trouvais dans un séjour de recherche en Allemagne et c'était juste après la chute du mur. Et je pense qu'il y a, pour moi, en tout cas biographiquement, quelque chose qui s'est noué un petit peu dans ce moment historique très précis, où à la fois on semblait rompre avec un certain passé, mais aussi en restaurer un autre, et que du coup, toute une série de problèmes de mémoire et de politique de la mémoire, tout à coup prenait consistance, en quelque sorte. Et c'est un peu à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, et plus je m'y intéressais, plus j'étais désespéré par l'ampleur de la bibliographie que je devais consulter sans arrêt et qui croissait à un rythme évidemment largement supérieur à mes capacités de lecture. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est un moment historique un peu particulier, très intéressant à vivre, je trouve, très intéressant pour essayer de réfléchir sur ces questions. Et c'est pour ça que j'ai, étant plutôt spécialiste de la littérature d'Ancien Régime en France, donc 16e, 17e, 18e siècle, ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de revoir un peu, repenser l'histoire de la littérature à partir de ce déplacement, disons grosso modo, entre société traditionnelle et société moderne. Mais au fur et à mesure où j'écrivais cela, au hasard des demandes ou des possibilités ou des projets, j'ai accumulé toute une série d'études très ponctuelles sur d'autres auteurs qui appartenaient plutôt au 19e et 20e siècle, soit d'un point de vue théorique, soit d'un point de vue plus littéraire ou esthétique. Et finalement, je me suis aperçu au bout d'un moment que cet ensemble-là, qui était fait de restes, en quelque sorte, de travail un peu marginaux par rapport à ce qui, pour moi, était plus central, qui relève plus de ma spécialité, ces restes pouvaient jouer peut-être un certain rôle intéressant pour réfléchir précisément sur le moment plus contemporain, sur le moment de la modernité. Et en particulier, essayer de réfléchir sur le fait que cette culture de la modernité ne s'est pas simplement faite sur le rejet massif de la tradition, mais a au contraire essayé de cultiver la mémoire, mais d'une certaine façon, évidemment, plus du tout sur le mode de l'actualisation mémorielle comme dans une société traditionnelle, mais sur un autre régime. Et c'est ce régime qui m'intéressait, ou ces régimes. Ce sont eux que j'ai essayé de suivre au hasard de lectures très, très ponctuelles et ciblées sur des auteurs extrêmement variés, qui ne cherche pas du tout à totaliser l'ensemble, ni à faire un parcours chronologique précis, mais plutôt à avoir justement une sorte de lecture qui soit oblique, où ces auteurs valent parfois justement parce qu'ils ne traitent pas ouvertement de la mémoire, mais que néanmoins on la voit ressurgir presque malgré eux. Et je crois que ce sont ces éléments qui me semblent intéressants. Et je crois que si ce sont des restes pour moi d'un travail massif, j'y insiste parce que c'est peut-être aussi une certaine logique des restes, du reste, de ce qui reste ou de ce qui ne reste pas, qu'il s'agissait pour moi de penser finalement. Là, je réalise ça aujourd'hui, hein, j'en parle pas du tout dans le livre, mais il me semble que cette question des restes et du reste est restée quelque part un peu coincée pour moi, et sans savoir exactement ce qu'il faut en faire, comment faire pour faire rester le passé sans en faire un déchet ou un résidu ou quelque chose qu'on jette. Mais en même temps, essayer de réfléchir sur ces dimensions-là. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir, non pas sur une temporalité chronologique, mais sur quelque chose que je dirais plutôt anachronique, au sens où le temps revient sur lui-même, et où il y a donc une forme de temporalité où les restes, précisément, peuvent revenir, parfois comme résidus inopportuns qui vont empêcher d'ouvrir le présent ou l'avenir, mais parfois aussi comme quelque chose qui est tout à fait crucial pour que le présent et l'avenir s'ancrent quelque part et dans quelque chose d'important. Donc comment se débarrasser du passé? Ça ne veut évidemment pas du tout dire il faut à tout prix s'en débarrasser. Ça veut dire il y a des modalités d'usage du passé extrêmement importantes à penser.
Est-ce que tu ne voudrais pas nous dire un petit mot de la structure très particulière du livre? Parce qu'il y a des études sur des auteurs et tout, qu'on a une petite idée de ce qu'il y a dedans.
Oui, il faut que je me souvienne de comment c'est articulé. Il y a deux parties. Une première partie, la condition moderne de la mémoire, dans laquelle, en fait, ce sont surtout des auteurs plutôt littéraires qui vont de Nerval jusqu'à Pérec, donc du début du premier 19e siècle jusque vers la fin du 20e, mais qui s'occupe aussi de, pas seulement de littérature, mais d'art, d'esthétique, et même de certains monuments. En particulier, il y a un chapitre sur le Parthénon de Nashville, qui, comme vous pouvez l'imaginer tout de suite, pose toute une série de problèmes de récupération mémorielle. Assez intéressant à suivre. J'avais été fasciné quand je m'étais trouvé à Nashville, quand je l'avais visité. Et dans le travail du passé, la deuxième partie, ce sont plutôt des auteurs théoriques qui ne sont pas directement orientés vers la question de la mémoire apparemment. Donc, j'ai pas de chapitre sur Ricoeur, aucun sur Alvax, rien sur toute une série d'autres auteurs qu'on pourrait imaginer qui ont traité de la mémoire, qui sont très importants, évidemment. Il y a peut-être quelques notes de bas de page ici et là, mais pas plus. Encore une fois, c'est plutôt le côté oblique qui m'intéressait. Donc, un chapitre qui, pour moi, était très, très important sur Paul Zumthor, qui permettait de réfléchir à la fois sur la question de la tradition et sur l'archive. Un chapitre sur Fernand Dumont, qui, là aussi, me semblait très important à mobiliser, parce que chez lui, c'est quand même très explicite, cette question de la mémoire. Un texte sur...
sur qui, déjà ?
Guy Debord, avec un usage de la mémoire assez intéressant, Benjamin, et on finit avec Jacques Ferrand.
Voilà, merci. Alors, je vais donner maintenant la parole à Joanne Villeneuve, qui va donc présenter un propos de commentaire.
Merci. Alors, je dois d'abord commencer en disant que je suis ici à titre de lectrice, intellectuelle et amie, puisqu'en tant que professeur à l'UQAM, je suis en grève aujourd'hui. Mais disons que cette grève a un certain lien tout de même avec ce livre, puisque je pense qu'il y a quelque chose qui se découpe dans le livre, qui est rarement nommé comme tel, mais qui quand même est présent, c'est la question de la transmission. C'est-à-dire, qu'en est-il aujourd'hui de la transmission? Bon, puisqu'on est dans ce clivage entre la modernité et la tradition, on pourrait tout simplement se contenter de placer la transmission du côté de la tradition. Mais quand on fréquente les institutions d'éducation, on réalise, et j'ajouterais même quand on est parent, on réalise que la transmission, ce n'est jamais fini. Alors, je pense qu'il y a un certain lien donc entre le livre et la situation que nous vivons à l'UQAM en ce moment et que les universitaires en général vivent actuellement au Canada. Alors, je suis heureuse d'entendre Éric tenter de résumer son livre à la toute fin de son intervention parce que je me suis un peu cassé la tête moi-même à essayer de résumer quelque chose et je n'y arriverai pas. Donc, évidemment, je m'arrêterai quand je verrai que le temps sera écoulé. Mais c'est un livre qui n'est pas facile à manipuler parce que j'ai vraiment le sentiment, d'une part, que c'est une œuvre qui tente une cohérence dans un parcours d'une vingtaine d'années. Tu me diras si je me trompe, mais c'est un peu ça. C'est une œuvre cohérente, donc c'est vraiment un livre cohérent. Mais en même temps, c'est un livre qui table beaucoup sur la finesse, les nuances, je dirais, de la réflexion autour de la question de la mémoire. Donc, il est très difficile d'en faire ressortir une thèse générale, puisque la beauté de la chose est dans les détails. Alors, je vous inciterai à le lire. Mais pour ma part, je voudrais quand même faire quelques commentaires et peut-être quelques... Enfin, ce sont des questions que j'aimerais formuler pour Éric. Bon, d'abord, il me semble que le titre même, que je trouve un petit peu osé, hein, la culture de la mémoire ou comment se débarrasser du passé, on a l'impression que c'est une sorte de livre qui nous indiquerait comment faire pour s'en débarrasser, alors qu'en réalité, il s'agit surtout d'aborder non pas le passé, mais des passés. Et c'est un élément que je trouve intéressant dans le livre, c'est-à-dire cette insistance à montrer qu'il n'y a pas quelque chose comme le passé qui passe, mais qu'il y a des passés, des qualités de passé et des effets de passé. Et je donnerai tout simplement l'exemple suivant. On peut très bien penser, par exemple, à ce que peut vouloir dire le patrimoine, ce que peut vouloir dire le passé cristallisé par l'institution, hein, et le comparer au passé tel qu'il est vécu dans le traumatisme. Et on comprend tout de suite que là, on parle de deux choses qui sont quand même complètement différentes. Donc, il y a vraiment une pluralité des passés. Et moi, je me suis posé la question aussi, bon, en lisant ce livre-là, et c'est une question que je voudrais relancer ici et la relancer à Éric, qui est une question naïve, en fait, et qui se pose de deux façons différentes. En fait, on peut se demander d'abord qu'est-ce qui passe dans le passé, hein, puisque littéralement le passé, c'est ce qui passe. Alors, qu'est-ce qui passe, hein, si on parle d'une pluralité de passé, il y a un qu'est-ce qui passe et comment ça passe. Et quand on pose ces deux questions, on réalise assez rapidement que pour la tradition, c'est-à-dire pour la mémoire traditionnelle, il n'y a très précisément pas deux questions, il n'y a toujours qu'une seule question. Hein? C'est-à-dire poser la question du passé, c'est nécessairement demander à la fois en même temps qu'est-ce qui passe et comment ça passe. Parce que la tradition, elle est à elle-même son propre contenu. Hein, dans un rituel, par exemple, hein, dans les processus de ritualisation, on n'est pas en train de faire passer quelque chose par certaines modalités. Ce que l'on est en train de faire dans le rituel lui-même, c'est de faire passer le rituel lui-même. Donc, il y a une sorte de symbiose, si on veut, entre l'objet du passé et la manière de le faire passer. Alors que dans la modernité, et c'est ce que montre, je crois, le livre d'Éric, dans la modernité, au contraire, il y a tout à coup un écart, une ouverture, il y a une question qui se pose, une différence entre le contenu du passé et la manière de le faire passer. Et c'est probablement cet écart-là, ce clivage, qui est notre problème aujourd'hui, en fait, oriente notre angoisse à l'égard justement de notre relation à la mémoire. Et je voudrais peut-être, juste pour définir un peu ce clivage ou ce conflit, revenir sur une citation du livre. Je pense que c'est important de lire un extrait du livre. Éric ne l'a pas fait. Je comprends pourquoi c'est gênant de lire son propre livre en public, mais moi, j'aimerais bien le faire. Donc, je vais lire un extrait qui résume un peu, je pense, même si c'est difficile de le faire, mais à tout le moins, là, une certaine orientation de la pensée d'Éric dans son livre. Alors, c'est à propos, c'est dans un chapitre qui concerne Fernand Dumont, où justement est thématisée cette blessure moderne. Alors, je cite. « Manifestement, nous cherchons aujourd'hui comment repenser ce que nous sommes collectivement, que ce soit sous la forme de nationalisme ou de communauté, d'humanité ou de spiritualité. La mémoire est là qui s'offre. » Alors déjà ça, là, la mémoire est là qui s'offre. Comment la saisir? Alors, voilà, la mémoire est là. Comment la saisir? Le contenu de la mémoire d'une part et le comment d'autre part. Donc, comment la saisir? Comment la faire revivre alors que nous mettons la liberté au-dessus de l'héritage, la création par-delà la réception, la production au-delà de la passivité? Et je trouve que ça, quand même, ça résume, je crois, assez bien le type de question, évidemment, qu'on retrouve chez Fernand Dumont, mais qui est repris par le livre et qui montre... j'oserais dire, une sorte de malaise, justement, vis-à-vis cette double fonction de la mémoire. Et je voudrais revenir sur le titre parce que, et là, Éric, j'aimerais que tu m'en parles. La culture de la mémoire, ça peut paraître un peu surprenant dans la mesure où la culture elle-même est une sorte de mise à distance. La culture telle qu'elle est vécue, jamais nommée par la tradition, c'est déjà la mémoire. On est toujours déjà dans la mémoire, dans la culture traditionnelle, si on peut l'appeler comme ça, disons dans la tradition. Mais dans la modernité, si on parle de la culture de la mémoire, c'est bien parce qu'il y a une sorte de mise à distance. Mais on comprend très bien, dans la citation même que je viens de livrer, que cette même culture a sa charge, en fait, la création, sinon, bon, au moins, à tout le moins, le travail, disons, de lien social. Hein? Il appartient à cette culture, justement, de lier, en quelque sorte. Et à mon sens, c'est à la fois donc cette mise à distance et ce travail du lien, de la relation, du lien social qui crée le malaise parce que, bon, il y a une difficulté là à gérer cet écart, cette déchirure-là, cette mise à distance et le lien social. Alors ça, c'est un peu... Je voudrais que tu reviennes là-dessus parce que il me semble que quand on essaie de faire ressortir du livre les éléments les plus conceptuels, les grands principes de ce livre-là, on est toujours un peu coincé avec des oxymores, il y a toujours des termes qui sont à double consonance. Et je voudrais terminer, parce que je pense qu'on a plus envie de discuter qu'autre chose, je voudrais terminer en posant une autre question qui touche, un élément central du livre, qui est une question, elle aussi, assez paradoxale, qui concerne la notion de médiation. Et là, je ne sais plus laquelle utiliser parce que toi, tu n'utilises pas beaucoup médiation, tu parles beaucoup d'immédiateté. Et donc, on pourrait aussi convoquer le principe de médiateté, on pourrait parler de médiation parce que la mémoire effectue toujours un travail de médiation du passé. Donc, médiation, immédiateté, médiateté. Et moi, je me suis posé la question en lisant ce livre. J'attendais toujours qu'on m'explique, en fait, qu'est-ce que c'est que l'immédiateté? Moi, j'essaie de comprendre où on peut trouver de l'immédiateté et j'ai beaucoup de difficultés à en trouver. Je dis, bon, dans le livre, on en trouve parce que tu parles beaucoup de ça, mais sans jamais vraiment t'arrêter sur ce concept ou ce principe-là d'immédiateté, comme si on le prenait pour acquis. Hein? C'est quelque chose qu'on place un peu en contrepoids d'une culture de la médiation ou qui serait plus traditionnelle peut-être. Alors qu'à mon sens, s'il y a encore de la transmission, justement, c'est parce qu'il y a encore de la médiation. Et là, je voudrais que tu éclaircisses un peu ce point-là. Dernier élément, je le jure. Tu as un petit peu dit tout à l'heure, tu n'as pas parlé de Ricoeur parce que tu aurais pu, mais bon, c'est un livre, il faut en finir à un moment donné à la page X. Comment placer sous quelle perspective, en fait, examiner cette question de la mémoire telle que tu la traites en lien avec la question de la responsabilité et celle de l'autorité. Et si je pose la question, c'est parce que tu en parles très, très, très peu, mais en décrivant cette modernité qui est aussi notre modernité, c'est-à-dire, bon, on pourrait dire quelque chose comme le 20e siècle et le début du 21e, on sait très bien qu'on est à l'ère du témoignage, on est au moment aussi d'une réflexion éthique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, tu en parles très, très peu de ça. Et c'est là que surgissent toutes ces questions de la responsabilité, de l'autorité au sens de Hannah Arendt, etc. Et tu en parles peu, sauf dans la conclusion. Alors, je te fais travailler. Je m'excuse. je veux pas que ça ait l'air d'une soutenance de thèse. Mais c'est parce que j'ai vraiment essayé de lui faire plaisir. Je me suis dit, mais j'ai juste des questions.
Merci beaucoup, Joanne Villeneuve. Éric, souhaites-tu qu'on entende aussi Dominique tout de suite, peut-être, et puis après on pourra. Alors, je donne la parole à Dominique Scarfone.
Merci. Je vais approcher le micro, on m'a dit qu'il faut parler droit dedans. Alors, moi j'ai écrit un petit peu c'est pas un texte écrit, mais pour être sûr de me limiter... et de ne pas m'égarer, j'ai senti le besoin de décrire ce que j'allais dire. Et j'ai intitulé ça « Les catégories du passé, rémémoration et anamnèse » ou alors « commémoration ». Parce que si j'ai bien compris Éric Michoulan, dans son livre, il traite de la différence qui serait peut-être capitale entre un passé sacralisé, fétichisé, pourrait-on dire, et un passé vivant, c'est-à-dire lié à une remémoration qui serait tout le contraire d'une commémoration. Pour la psychanalyse, par exemple, le symptôme commémore, à l'insu du sujet, évidemment, tant que celui-ci n'arrive pas à se remémorer, c'est-à-dire à recomposer sa mémoire, qui est aussi recomposer sa psyché, qui est se recomposer. Et donc, la question que Éric pose, c'est celle de la différence entre tradition mémoire d'un côté et culture de la mémoire de l'autre côté. La mémoire de la tradition, en effet, me semble se démarquer nettement de la mémoire de culture. Et j'emploie exprès cette expression comme ça, j'ai un peu déformé celle de Michoulan, un peu comme on dit des perles de culture, par opposition à des perles naturelles. La mémoire de culture, en effet, m'apparaît comme une fétichisation du passé et qui, comme tout fétichisme, est là pour combler un vide de représentation. Alors que la tradition, sauf erreur, ne se pose pas le problème de la représentation en tant que telle, tandis qu'elle est vers la réinstauration d'une présence. Et je ne sais pas si c'est l'immédiateté, mais cette question de la présence me semble assez importante dans le livre. Cette présence à concevoir dans le sens de ce que Michoulan appelle des bifurcations entre un présent bordé et ce qu'il appelle aussi un présent débordé. Un présent au sein duquel, pour ma part, je distinguerais entre, d'une part, la présence d'un actuel dont le temps est un temps qu'on pourrait dire sans mémoire, le temps dont c'est toujours maintenant la modalité temporelle, comme l'affirme Lyotard. Et d'autre part, un présent qui serait toujours déjà une mémoire du présent, comme l'évoque Meshulam, mais qui se vérifie aussi du point de vue psychologique en psychanalyse ou même du point de vue neuronal. Il y a un grand chercheur américain, Gerald Edelman, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Remembered Present », le présent remémoré. Qu'il me soit permis de noter que pour moi, psychanalyste, la remémoration est une répétition du même, là où la commémoration culturelle, disons, tente l'improbable répétition à l'identique. Et le texte d'Éric sur le Parthénon de Nashville, effectivement, est quelque chose à ne pas rater de ce point de vue-là. Impensable répétition de l'identique, donc, et à une telle distance de l'expérience que ça lui confère précisément le statut d'isolement propre au fétiche. Fétiche, c'est-à-dire pseudo-symbole, décontextualisé plutôt que recontextualisé, objet bizarre dont les tenants méconnaissent la rétroprojection, je dirais, qui s'opère à travers lui. Rétroprojection, c'est-à-dire projection rétrospective sur un passé rendu inerte, des idéologies d'un présent lui-même dévitalisé, fixé dans le ciment ou le carton-pâte des décors hollywoodiens. Pensons ici à l'architecture néo-impériale mussolinienne, par exemple, et sa référence à l'Empire romain. Tout l'opposé du nécessaire travail de l'historien. Derrida affirme que le fétichisme est indépassable, mais peut-être faut-il considérer le rapport au fétiche comme pouvant varier. La sacralisation du passé que décrit Meshulam et cette congélation, Johann disait tout à l'heure cristallisation, du temps, dit passé, mais qui est tout sauf un passé. Il y a là comme un exil où règne la nostalgie plutôt que la remémoration. Or, la nostalgie, c'est précisément une sorte d'arrêt sur image dont abusent parfois les cinéastes. Loin d'être une mémoire vivante, c'est de l'ordre du simulacre, et encore, sans la véritable magie qu'opère la réactualisation rituelle par la remémoration. Meshulam écrit, dans, je crois que c'est dans sa conclusion, ceci, je cite, « La contradiction entre les modes de réception que suppose la mémoire et les pratiques de production qu'impose la culture laisse douter de leur possible accord. » Et je crois que ces termes de réception et de production qu'il oppose sont très importants, sinon centraux, pour le propos qu'il développe tout au long de son livre. Parce qu'ils indiquent que ils indiquent en fait très bien le changement de culture qui passe entre la réceptivité traditionnelle, c'est-à-dire la disponibilité à accueillir une présence du passé, sans nostalgie, mais sans répudiation, d'une part, donc, et d'autre part, le productivisme frénétique des sociétés de la représentation pour lesquelles le présent est tout entier tourné vers l'avenir, sous l'illusion que le rapport au passé serait précisément passéiste, réactionnaire. La conception du passé est alors dévoyée. C'est un passé détruit, mort, alors qu'il y aurait, dans les termes d'une philosophe aussi singulière que Simone Weil, à penser le rapport entre passé et avenir d'une toute autre manière. Je me permets une citation de quelques lignes de Simone Weil. Il serait vain, écrit-elle dans L'Enracinement, de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres vies, d'autres rêves, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. L'amour du passé, précise-t-elle, n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, ajoute-t-elle, la révolution elle-même puise toute sa sève dans une tradition. Weil distingue donc entre un passé détruit et un passé vivant. Et dans ce sens, il faut se demander si notre culture, dans sa manie de la commémoration, peut encore permettre un accès au passé vivant, ou si elle serait en train de réaliser la fiction borghésienne de Funès il Memorioso. ce personnage à la mémoire prodigieuse d'une nouvelle de Borges, mémoire qui est le résultat d'une fulguration au cours d'un orage, nous dit l'histoire, et qui permettait à ce que Funès, je cite, « savait la forme des nuages australes du matin du 30 avril 1882 et pouvait les comparer dans son souvenir aux vénures d'un livre fait de pâte argentine qu'il n'avait aperçu qu'une fois. » Fin de la citation. Doué de cette mémoire reproduisant à l'identique, Funès avait d'ailleurs entrepris la création d'un dictionnaire infini, incapable qu'il était devenu d'accepter que le mot « chien » puisse désigner aussi bien l'animal vu de profil à 3h14 que celui aperçu de face à 3h15. Cette tête à la mémoire fabuleuse pouvait tout archiver, mais était pour cela même incapable d'idées. Borges se demande à la fin si Funès était en mesure de penser, puisque pour cela, il faut, dit-il, pouvoir oublier certaines différences, généraliser, abstraire. Mais peut-être cela n'est-il pas encore suffisant. Penser, ce n'est pas seulement un processus d'abstraction, c'est aussi un processus de destruction-reconstruction qui s'inscrit dans un rapport au passé vivant, c'est-à-dire non sacralisé, non fétichisé, pouvant être présentifié, si je peux dire, dans une ouverture du temps actuel. Cette ouverture et cette présence supposent la répétition, mais une répétition qui ouvre la voie à l'historisation parce que s'effectuant dans la réceptivité, justement, et non dans la productivité. Il s'agit de laisser arriver quelque chose du passé, là où la productivité volontariste se résout pour finir en un refoulement. Vous ne serez pas étonné que j'arrive avec ce mot à un moment donné. Le refoulement, en effet, ce n'est pas l'oubli. Le refoulement est conservateur. Reste qu'il est un refus du temps et du devenir, et donc aussi du passé. Peut-être faut-il distinguer ici le refoulement nécessairement opéré par toute présentation ou représentation du refoulement qui serait plutôt un rejet, une forclusion, un déracinement ou une destruction du passé. Mais peut-être trouverons-nous auprès du même Borges une consolation lorsqu'il écrit dans un texte théorique cette fois-là « Le passé est indestructible. Tôt ou tard, toute chose fait retour, et une des choses faisant retour, c'est le projet d'abolir le passé. » Fin de la citation. De ce retour paradoxal, la psychanalyse est assez familière. Elle propose à son sujet la remémoration, bien sûr, mais aussi la perlaboration, que Lyotard, pour le citer encore une fois, rebaptise anamnèse, c'est-à-dire un travail de passage, répété sur les traces d'effrayage et sur les balayages ou scanning, si on veut, préalablement effectués dans la mémoire. Travail contre la résistance à ce qui, du passé, se présente pourtant comme insistant, mais que le refoulement, à entendre ici sous diverses formes, tend à maintenir non comme passé, mais précisément comme, si je peux me permettre un néologisme, comme un impassé, avec l'impasse qui s'ensuit et qui exige ce travail de remémoration et d'anamnèse si l'on veut qu'advienne non l'éradication du passé, mais un oubli qui est aussi sa synthèse en passé véritable, archive ouverte, comme dirait Derrida, depuis l'avenir. Je vous remercie.
Bien. Merci beaucoup, Dominique. Alors, on a beaucoup de questions. Beaucoup de questions et on a donc le temps qu'il faut pour y répondre. Alors, on va d'abord écouter Eric qui va reprendre à sa guise ce qui lui a été proposé.
Oui, évidemment, c'est, si le livre était apparemment compliqué à arpenter et résumer, j'imaginais bien que les deux interventions... dans leurs richesses respectives, ça va être un petit peu difficile de retraverser tout en quelques minutes. Mais je vais peut-être essayer de resélectionner à mon tour et d'opérer quelques coupes transversales. Peut-être commencer par Peut-être la dernière proposition, ce très joli néologisme, j'avoue que je suis immédiatement séduit, donc ça, j'ai tendance à essayer de re-réfléchir tout de suite là-dessus. Et d'autant plus que ça fait écho à quelque chose que j'essaye précisément de retravailler en ce moment à partir de, bon, peu importe, de manière érudite, disons, certaines propositions d'Aristote dans la métaphysique, que Georges connaît beaucoup mieux que moi, sur ce que Aristote appelle la diaporématique. Et la diaporématique, c'est, comme le dit étymologiquement, la manière de traverser les apories, donc les cul-de-sac, les impasses. Mais ce que souligne Aristote, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir l'idée de sortir de l'impasse, parce que ça, c'est le résultat immédiat, au mauvais sens d'immédiat. Je vais revenir sur l'immédiateté. Mais le mauvais sens d'immédiateté, c'est justement d'avoir la solution toute faite, un résultat. Or, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer d'arpenter le cul-de-sac, de rester dedans, pas éternellement, mais de prendre le temps précisément de ne pas le refouler trop rapidement et de s'en débarrasser un peu vite. Ça, c'est la solution de facilité. Donc l'art des cul-de-sac me paraît extrêmement important. Du coup, l'impassé est en effet quelque chose qui je pense, est... serait extrêmement intéressant à essayer de travailler. Pourquoi est-ce que cet impassé ou cet art d'arpenter les impasses est important? Parce que c'est là qu'on trouve les surprises. Lorsque vous êtes dans l'immédiateté d'un résultat, il n'y a aucune surprise, parce que justement le résultat il était déjà donné en fait. Vous ne faites que retrouver quelque chose qui est déjà là. Ça aussi c'est le mauvais passé. Et non pas un impassé. Alors que lorsqu'on essaye de travailler un petit peu dans ces impasses-là, qu'on s'obstine, peut-être parfois un peu bêtement, c'est là où, comme le disaient certains Russes au moment où, cette fois-ci non pas le mur de Berlin s'est effondré, mais après que l'Union soviétique se fût effondrée, on avait l'habitude de faire une blague qui disait quelque chose comme « Ah, maintenant, c'est dans les archives que vont sortir des archives que vont sortir les véritables surprises. » C'est-à-dire c'est du passé, c'est dans le passé que se trouve l'étonnement et la surprise, pas l'avenir. L'avenir ne réserve aucune surprise. C'est le passé qui en réserve. Mais parce qu'on réinvestit le passé dans le présent, et que c'est là où on peut avoir des surprises véritables. Dans la manière de réactualiser, de recontemporanéiser, si vous me permettez l'expression, ce qui était apparemment passé, mais qui ne l'est justement pas. Donc c'est un peu dans ce travail, peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de l'impassé et de ce rapport entre passé et futur, qui en effet un faux rapport exemplairement. Donc c'est en ce sens-là que la surprise peut être quelque chose d'intéressant à penser. Ce qui me permet peut-être de revenir à ce moment-là sur la question de l'immédiateté, dans la mesure où je crois qu'il y a deux immédiatetés. L'immédiateté au sens banal du terme, qui serait qui produirait une illusion de transparence. On a l'impression d'être dans l'actualité par excellence. Les nouvelles télévisées sont exemplairement ce genre de fausse immédiateté, ou le direct, le pseudo-direct. Alors que l'immédiateté dont j'essaie de parler, c'est une immédiateté qui est par-delà le processus de médiation, qui n'est pas en deçà, mais par-delà, c'est-à-dire qu'on est passé par la médiation pour arriver à cette immédiateté. Autrement dit, c'est bien sûr un effet d'immédiateté, non pas une pseudo-immédiateté, ça c'est la mauvaise immédiateté, celle de la transparence, mais un effet d'immédiateté qui, en tant que médiation, arrive à nous toucher suffisamment et de manière suffisamment proche pour qu'on se sente en quelque sorte happé, mais en même temps écarté par cette immédiateté. Donc, c'est pour ça que la question de la distance, de l'écart et la question de la proximité me paraît en effet, comme l'a très justement remarqué Johan, quelque chose de tout à fait important à penser. On n'est jamais ni dans un écart total, dans un abandon radical, ni dans une proximité parfaite. On est dans cette oscillation entre les deux. Et cette oscillation me paraît importante. Si je reprends une autre manière de retraverser les deux propos, tout ce que Dominique Scarfone a très bien resynthétisé autour de certaines oppositions, dont vous avez vu qu'elles sont assez systématiquement binaires. Comme Joanne le soulignait, souvent tout un travail sur l'oxymore, hein, donc l'alliance de contraires, de termes contraires. Pour moi, c'est aussi une manière de réfléchir, de faire travailler cette binarité, à la fois parce que ça donne la possibilité de rebondissement. Il y a une dynamique du binaire, surtout pas de dépassement, donc pas de ternaire, mais simplement un raffinement des binaires. C'est-à-dire que là où on a une opposition binaire qui apparaît assez évidente, l'idée, c'est de retravailler cette opposition pour la redéplacer et en recomposer une autre à l'intérieur. Donc, par exemple, je parlais de l'immédiateté de la médiation. On a l'opposition immédiateté-médiation, mais dans l'immédiateté, on a l'opposition entre la fausse immédiateté et la mauvaise immédiateté et la bonne immédiateté. Ouais. Ce type de raffinement, un peu platonicien dans une certaine mesure, hein, si je peux me permettre cette référence, toute proportion gardée. Mais il y a comme ça un certain travail de resélection ou de raffinement, au sens où à chaque fois on va rediviser quelque chose, repenser la dynamique d'un binaire. Là où on croyait avoir une seule chose, on en a deux. C'est ça l'intérêt, je trouve, du binaire. Et qu'il y a vraiment une dynamique là-dedans. Dans ces oppositions donc, que Dominique a placées à très juste titre, hein, je suis tout à fait ce qu'il disait, ou dans ce que soulignait Johan, je voudrais m'attacher à une de ces oppositions qui est culture-mémoire. Dans la mesure où, en effet, on a, d'un point de vue historique, me semble-t-il, une manière de comprendre une grande opposition que j'énonçais rapidement tout à l'heure, société traditionnelle, donc des sociétés à mémoire, disons, et sociétés modernes, des sociétés dont on pourrait se dire qu'elles sont justement des sociétés de culture, au sens où, contrairement à ce qu'on a l'air de croire parfois, même souvent, la culture n'est pas une sorte de transcendantal, d'universel. Nous sommes des êtres de culture, c'est ce que bien souvent on entend dire. La culture est une notion historique, il y a une certaine invention de la culture. Elle prend une forme à la fois conceptuelle et intellectuelle, mais aussi de définition d'une certaine manière de devenir des sujets, des acteurs sociaux, etc. Et on peut essayer de faire une sorte d'histoire, hein, de ce passage. Et donc, c'est un peu ce que j'avais essayé de faire dans le livre précédent. Et en ce sens, mémoire s'oppose à culture, radicalement. C'est un petit peu la conclusion pour moi de cet ouvrage. Et il faut étudier le déplacement de l'un à l'autre comme un régime assez binaire de passage ou d'opposition. Et on peut synthétiser assez rapidement les deux grands ensembles. Ce que Dominique a fait il y a un instant, et relève un petit peu de ce genre-là. Mais en même temps, lorsqu'on essaye de réfléchir sur la modernité, donc sur ces sociétés à culture, on voit bien que la mémoire n'a pas disparu du tout. Elle est toujours très présente. Et peut-être le problème aujourd'hui, c'est qu'elle est sans doute trop présente. Et dans cette pourrait dire hypermnésie, si on voulait un mot savant, sans ce trop de mémoire. Il faut non pas faire des sélections, mais essayer de voir un petit peu quels sont les effets sociaux, et je dirais même les effets politiques de ce trop de mémoire, qui sont l'inverse d'une amnésie, mais qui, au bout du compte, reviennent à peu près au même. Qu'on oublie par trop de mémoire ou qu'on oublie par absence de mémoire, on est toujours dans un certain oubli. Or, il me semble qu'il est important d'avoir de bons usages de la mémoire, ça veut dire aussi de bons usages de l'oubli. Les deux, évidemment, là aussi, vont ensemble. Et en ce sens, la culture de la mémoire, si j'avais pris ce titre, dont j'avais été très surpris, parce que j'étais persuadé que c'était déjà partout, et donc j'avais proposé un titre absolument absurde à mon cher éditeur, qui m'avait dit non, c'est totalement nul ce titre. Et il avait tout à fait raison, bien sûr. Et du coup, j'avais mis ça en me disant, bon, ça doit sûrement avoir été pris, mais non. Ce qui est assez amusant finalement, parce que peut-être justement on n'a pas assez mis en rapport la culture au sens où je viens de la décrire, hein, d'une invention historique de la culture, et ce rapport à la mémoire, surtout aujourd'hui. En ce sens, le malaise entre l'écart, non pas.